Explore, un podcast de l'Église évangélique réformée de Suisse pour découvrir l'Église qui arrive et un monde transformé par la foi. Je suis Elio Jaillet, chargé de théologie et d'éthique pour l'Église évangélique réformée de Suisse. Et pour la troisième saison de ce podcast, nous partons du terrain ecclésial, des histoires qui s'y vivent, pour identifier des thèmes et des enjeux cruciaux pour le monde dans lequel nous vivons, des réalités dont il faut qu'on parle. Chaque épisode commence avec un récit. Celui de cet épisode est donné par Céline Riff. On l'écoute.
Bien, ça commence en 2003, précisément, fin de l'année, où on me propose un engagement dans une paroisse du Jura bernois. Un engagement en catéchèse et en jeunesse. Engagement pour lequel je n'ai aucune formation à ce moment-là. J'ai certes une expérience de bénévole dans cette paroisse. J'ai beaucoup de motivation et j'ai suivi tout mon cursus catéchétique. Donc voilà, quelques cases sont cochées, mais pas toutes. Du coup, j'intègre une nouvelle équipe pastorale. Elle vient de changer à ce moment-là. Et puis la paroisse décide de créer un poste. C'est tout nouveau. Plein de questions pour moi, par quoi je commence, c'est quoi la catéchèse au juste, comment est-ce qu'on l'aborde. Et puis, j'ai alors que 22 ans et je me dis, ah bah tiens, je vais aller chercher 2-3 pistes auprès du pasteur que j'ai eu dans mon parcours catéchétique. Il était hospitalisé ce jour-là, il m'a donné rendez-vous dans sa chambre d'hôpital et puis je lui ai expliqué la démarche et le fait que la paroisse dans laquelle il avait travaillé de longues années avait créé ce poste pour la jeunesse, pour la catéchèse spécifiquement. Et puis, je me souviens, on a eu une longue discussion sur ça. Lui-même était vraiment investi dans le projet catéchétique pour la région. Et puis, je me souviens très bien, je ne me souviens pas de tout bien sûr, mais je me souviens très bien d'une des paroles qu'il a dites dans cet échange. C'était « Céline, il faut offrir aux jeunes, à travers la catéchèse, la dimension du choix. » Et une catéchèse réussie, c'est une catéchèse où on peut emmener les jeunes à faire des choix. Et qui dit choix, dit se questionner, dit dialoguer, et apprendre de l'un et de l'autre pour pouvoir discerner le choix que le jeune veut faire. Et en fait, ça a été un peu le démarrage de mon engagement pour cette catéchèse. Comment emmener les jeunes avec nous, avec les équipes, pour qu'on puisse aborder ces questions de la vie et puis proposer à chaque fois de faire un choix, peut-être un choix symbolique, pas forcément des choix qui engagent la vie, mais d'amener les jeunes à aiguiser leur lame, en fait, de cet esprit critique, de ce regard critique, de ce dialogue, pour qu'à l'avenir, chacun, chacune puisse... entrer dans la dimension du choix.
Merci beaucoup Céline, c'est presque un énoncé de vocation ce que tu nous donnes là, qui est à la fois quelque chose que tu portes, je l'entends, en tout cas dans la manière de le dire, et quelque chose qu'on a un peu mis sur ton chemin ou qu'on a mis en évidence. On va donc du coup parler de ce ministère de catéchèse professionnel, mais aussi de l'évolution de la catéchèse. Je n'étais pas super attentif, tu as dit que tu as commencé en 2003.
En 2003, oui.
Ouais, c'est bien ça. Oui. Donc j'étais attentif. En 2003... ça fait quand même c'est il n'y a pas si longtemps, et en même temps, c'est quand même un petit... c'est pas tout à fait une génération, mais presque en arrière. Hein. Donc, je pense qu'il y a des choses qui ont bougé. Ce sera peut-être intéressant d'en parler entre le monde de la catéchèse dans lequel tu as grandi, dans lequel tu as fait tes armes, dans lequel tu as été formé, et puis ce qu'il en est maintenant. Mais peut-être on peut en dire un tout petit peu plus sur toi comme personne d'abord. Donc Céline Riff, tu es, on a dit catéchète professionnelle, mais même plus précisément, qu'est-ce qu'il faudrait dire, responsable de la catéchèse pour le secteur Jura-Bernois de l'église, l'arrondissement Jura-Bernois de l'Union synodale Berne-Jura-Soleur. C'est pour dire les choses dans les bons termes. Je ne sais pas si tu as d'autres cordes à ton arc, d'autres choses que tu fais.
En fait, aujourd'hui, j'ai effectivement, depuis une vingtaine d'années, je suis engagée sur le terrain de la catéchèse, vraiment sur le terrain, avec la jeunesse. Aujourd'hui, plus spécifiquement avec l'enfance, j'ai travaillé jusqu'en 2024, aussi avec la jeunesse, adolescent. Et puis aujourd'hui, j'ai un 20% vraiment de terrain catéchèse enfance et puis un 70% pour effectivement là au niveau de l'église cantonale pour l'arrondissement du Jura des églises réformées et bien de Jura-Soleure en co-responsabilité pour la catéchèse. Ça correspond autant à l'organisation des formations pour devenir catéchète professionnel que à avoir un Oui, à accompagner le projet catéchétique dans chaque région, dans chaque paroisse. Et puis, veiller à ce qu'il y ait de la catéchèse qui se vive.
Je veux dire, du coup, tu as plein de vis-à-vis aussi au
Oui.
niveau des
Oui.
différentes paroisses, j'imagine. Tu travailles avec ces gens-là. Et donc, sur deux pieds, hein, un petit bout de terrain encore, et voilà, ce travail de coordination.
Oui. Je réfléchissais à ça ce matin en venant. Je me disais, il y a une partie, c'est l'avant-scène, et l'autre partie, c'est les backstage, comme on dit. Où voilà, on est plutôt, je me considère plutôt comme pas la metteur en scène, mais peut-être la maquilleuse ou la costumière au service des personnes qui seront amenées à porter la catéchèse dans les paroisses.
On va aller un tout petit peu sur les questions de structure à un moment donné, parce que c'est vrai que c'est chaque réalité des églises réformées est un peu différente dans leur manière de s'organiser de manière générale, on va dire ça comme ça, mais dans la catéchèse en particulier. Mais restons encore avec toi. Qu'est-ce qui, au départ, tu l'as déjà dit un tout petit peu, mais qu'est-ce qui, au départ, t'a amené à cette formation? C'est un bon catéchisme ou il y avait d'autres possibilités?
Alors, c'est comme ça, c'est qu'en 2003, quand on me propose ce poste, j'étais bénévole dans la paroisse, et on me propose ce poste. Moi, je considère un petit peu. Enfin, voilà, mon engagement, c'est plus l'opportunité que ce poste, du fait que ce poste soit créé, et puis un petit bout du hasard. Et étant déjà engagée comme bénévole, voilà, j'entre dans ce poste. Et en 2005, l'arrondissement du Jura a mis sur pied une formation de catéchète professionnelle.
Donc ça n'existait pas
Ça
avant?
n'existait pas avant, ouais. Donc j'ai fait mes premières armes un peu comme ça sur le terrain, un peu improvisé.
Ouais, mais un peu avec le système aussi, du coup, comme on
Oui,
essuie les plâtres de la formation, un
oui,
peu à ce moment-là.
Et puis en 2005, j'ai fait partie de la première volée des formations de catéchète professionnelle. C'est devenu après le ministère de la catéchèse pour les églises réformées, Bern Jura, Soleure. Et puis voilà, j'ai fait une formation sur 3 ans en le week-end, donc en cours d'emploi. Et puis voilà, donc j'ai l'impression, je réfléchissais à ce parcours, que il y a d'abord eu l'opportunité de le faire, plus que je me suis jamais dit en étant plus jeune, tiens, je vais faire ce métier ou je vais faire un métier d'église. Et puis là, il y a eu une opportunité. Et puis voilà, en déroulant un peu la pelote, j'ai l'impression que chaque fois que je tire sur un fil, il y a quelque chose qui vient, qui se révèle. Et voilà, c'est un peu le mouvement actuel, c'est de dérouler cette pelote et
Le
découvrir.
découvrir, ouais.
Ouais. Et du coup, l'attrait, la motivation, l'intérêt pour la question, autant pédagogique et théologique, ça vient, l'appétit vient en mangeant. Quelque chose comme ça, ouais.
Et puis, quelque chose qui n'est pas tout à fait clair pour moi, c'est au moment où tu commences cette formation, tu es quoi, tu as fini, je sais pas, c'est quoi ton background à la
Ah
base,
oui,
c'est...
bien sûr, j'ai fait d'abord un apprentissage d'employé de commerce.
D'accord.
Et après, voilà, ça tombait à pic, cette proposition de job, parce que j'étais un peu lassée du travail. J'avais travaillé dans plusieurs secteurs. Et puis voilà, j'ai commencé vraiment avec les quelques bouts de ficelle que j'avais en termes de connaissances et d'expérience. Et puis voilà, j'ai fait la formation de catéchète. Et puis juste après, j'ai eu envie, justement, cet appétit qui vient en mangeant. Je me suis dit, il faut que j'élargisse aussi un peu le champ. Et puis j'ai fait un bachelor en travail social, en filière animation socioculturelle, ce qui complétait vraiment bien la formation de catéchète professionnelle. Voilà. Et tout en restant engagé dans les églises réformées. Et dans la paroisse en question.
Qui était, redis-moi ?
La paroisse de Moutier.
C'était la paroisse de Moutier.
Oui.
Et qu'est-ce qui, en termes de passion, en termes de... ou peut-être là où tu en es maintenant, justement, quelque chose qui te travaille, qui te passionne, qui... La pelote que tu es en train de dérouler, qu'est-ce qu'il y a au bout, là, maintenant ?
Moi, ce que j'aime dans notre catéchèse, alors j'ai une grande lacune, c'est que je connais que la catéchèse de l'arrondissement du Jura. Je me suis très peu intéressée aux catéchèses des autres églises cantonales ou des autres paroisses. Mais ce que j'aime dans cette catéchèse, c'est qu'on reste pas sur la, on n'est pas juste dans une transmission de connaissances religieuses, mais ça dépasse tout ça. Et aujourd'hui, où j'en suis dans mon déroulage de pelote, c'est vraiment cette idée que l'Église doit offrir un espace de dialogue. Alors moi, je travaille spécifiquement en enfance et en jeunesse, mais pour moi, c'est une offre qui doit être vraiment transversale. Un espace de dialogue, et puis encore plus que ça, des opportunités d'apprendre le dialogue, puis d'affiner le dialogue, que ce soit autant chez les professionnels, les bénévoles ou le public cible. Et ouais, aujourd'hui, j'en suis vraiment dans cet aspect-là de notre raison d'être, un peu, de dire, ah mais oui, alors bien sûr, il y a les questions de spiritualité, de théologie, les questions existentielles, bien sûr, qui viennent se mêler à tout ça, mais... Ouais, vraiment une ouverture au dialogue, un accueil du dialogue. Et c'est aujourd'hui ce qui me passionne.
Tu as précisé justement que tu connaissais surtout l'horizon de l'arrondissement Jura, de la catéchèse. En même temps, c'est vrai que en termes de ministère de catéchèse vraiment développé comme ça, c'est surtout là que ça existe. On ne le retrouve pas comme tel, excepté à Fribourg. Je ne suis même pas sûr que le Valais... Non, il y a des interventions à l'école, mais il n'y a pas ce ministère de catéchète. Donc voilà, Fribourg et Berne partagent ça, mais c'est vraiment à Berne que c'est développé, où les ressources, notamment pour la formation, sont présentes. Là où, dans les autres églises cantonales, Vaud, Neuchâtel, à Genève, ça s'organise encore différemment, et puis beaucoup à l'échelle de régional ou paroisse, mais il me semble pas avec ce concept en tout cas d'une professionnalisation de la catéchèse. Donc voilà, moi je trouve chouette aussi de pouvoir un peu discuter de ça avec toi. Moi-même je viens du contexte vaudois, je le connais pas non plus très bien du coup là ce que c'est que cette catéchèse Berne. Donc on va faire un bout d'interculturalité, je crois, dans cet échange.
Parfait.
Tu as commencé ta catéchèse, tu étais encore un peu plus proche des jeunes. Maintenant, on est à 20 ans d'écart, je suis pas sûr qu'on fait... Il y a des gens qui sont éternellement jeunes, mais en même temps, on n'est plus quand même tout à fait de la même génération. Moi, je vois une grosse rupture quand même, c'est comment le numérique a évolué, notamment, et comment on grandit avec le numérique, hein, quand je pense un peu à comment c'était à 20 ans en arrière pour moi et maintenant. Et en même temps, avec ce ministère, tu as une... porte d'entrée privilégiée sur le vécu des familles, sur le vécu des jeunes, sur quels sont les enjeux pour ces personnes aujourd'hui, pour cette génération. Je voulais qu'on en parle un tout petit peu parce que c'est aussi l'occasion dans ce podcast de donner un peu écho à ces réalités-là. Qu'est-ce que tu observes? Qu'est-ce que tu entends? Qu'est-ce qui anime? Je trouve ça sonne plat, mais qu'est-ce qui anime la jeunesse comme tu l'aperçois toi aujourd'hui?
Je trouve que c'est intéressant parce que on peut travailler avec les jeunes, mais sans jamais se questionner sur quels sont leurs enjeux à eux. Je trouve assez impressionnant. Voilà, mais je travaille plus avec la jeunesse depuis quelques années, plutôt secteur enfance, mais je pense que je suis toujours proche des jeunes parce que j'ai des neveux et des nièces qui sont jeunes. Notre monde, il évolue très très rapidement. Il est, je pense, très exigeant pour les jeunes. Moi, mes souvenirs d'il y a quelques années, quand je travaillais encore en jeunesse, il y avait une vraie pression chez eux par rapport au monde du travail, au choix d'une profession, notamment. Hein. Et puis, je pense que l'environnement ambiant des jeunes mais peut-être sûrement même plus largement, est assez anxiogène actuellement. Et ouais, on est tellement dans un monde diversifié que je pense que pour eux, même pour tout un chacun, j'en suis assez convaincue, trouver sa place, correspondre à des attentes d'une société ou même d'une société plus restreinte qu'est la famille ou comme ça, bah c'est vraiment quelque chose qui met les jeunes sous pression. Et puis, tu parlais de la montée des réseaux sociaux et tout ça. Alors, j'ai rencontré des jeunes qui sont très, très connectés, très agiles sur ces outils, vraiment presque en permanence, et puis qui peuvent en même temps quand même souffrir d'une certaine solitude. Et puis, je pense que on est vraiment dans des ambivalences comme ça, et qui peuvent être difficiles à gérer, à accueillir, à comprendre pour les jeunes. Et du coup, ça, je trouve que si l'Église peut apporter un espace d'écoute, d'accueil, peut-être un espace qui prend un peu le contre-pied de toute cette mouvance. Il ne faut pas que l'Église soit que contre-pied, mais qu'elle garde aussi des espaces un peu où on peut accueillir des jeunes qui ont soif d'authenticité, qui ont besoin d'être écoutés, puis pas déconnectés de ce qui se passe dans notre société actuellement. Souvent, ils sont sensibles aussi aux questions de justice, aux questions d'écologie, tout ce qui parle d'inclusivité. Et ils sont vraiment en recherche de sens, mais toutes ces dimensions-là, c'est un travail pour arriver à ça avec les jeunes. On ne peut pas juste se taper sur l'épaule puis se dire...
Ça suffit d'ouvrir la boîte pour... c'est bon, ça va sortir tout seul, non? Oui. J'imagine qu'il y a du lien de confiance pour pouvoir créer des espaces de confiance où l'expression du jeune est possible aussi. Sachant que ça s'apprend, j'imagine. Enfin, je veux dire, ça s'apprend, ça apprend à le vivre, quoi.
Oui, alors je pense que c'est... De la part des professionnels, il y a une partie de compétences professionnelles, il y a une partie aussi juste de l'être. Et puis pour les jeunes aussi, c'est quand même des espaces où ça peut être surprenant pour eux que tout d'un coup on leur demande leur avis sur quelque chose, qu'on ait des échanges. Alors que je pense, alors je ne connais pas non plus le milieu scolaire ou d'autres milieux, mais il y a quand même beaucoup d'endroits dans la société où on ne nous demande pas notre avis, où on s'inscrit dans cette ligne-là sans forcément questionner les choses. Et je pense que ça peut être effectivement surprenant pour notre jeune public de tout d'un coup avoir l'opportunité de réfléchir, de remettre en question.
De donner leur voix. Et parce que tu as quand même évoqué justement, tu soulignes que maintenant c'est quand même plus ton orientation et plus sur les familles. Alors moi, il me semble que la réalité jeunesse-famille, enfin c'est tout un truc un peu compliqué parce que le jeune, il est en train de se trouver aussi indépendamment dans la différence et dans le lien avec son héritage familial, sa systémique familiale. Mais du coup, c'est aussi important de parler des familles, je crois, si on parle des jeunes. Et je ne sais pas si là, tu as aussi d'autres choses que tu pointerais du doigt, que tu indiquerais.
Disons qu'on est vraiment maintenant dans FB Jusso, l'institution a adopté des nouvelles lignes directrices pour la catéchèse qui sont harmonisées entre la partie alémanique et la partie francophone. C'est tout nouveau. Jusque-là, c'était deux directives séparées.
D'accord.
Parce qu'il y a vraiment des différences aussi en matière de... autant de penser la catéchèse, mais aussi de la vivre en pratique sur le terrain. Donc voilà. Et là, on a réussi la prouesse de faire une seule ligne directrice pour les deux parties linguistiques. Et cette ligne directrice, elle souhaite ouvrir et inclure dans le projet catéchétique les jeunes de 0 à 25 ans. D'accord. Donc enfance, famille et jeunesse. Et puis les lignes directrices d'avant.
Jeunesse, jeune adulte, enfin, passer aux 25 ans, c'est la période de formation plus. Ceux qui iront jusqu'à l'université iront peut-être justement 25. Apprentissage seront déjà dans la vie active, mais.
Oui, alors enfance, famille jeune, jeune adulte. Mmh. Et jusque-là, les lignes directrices correspondaient à une catéchèse de 6 à 15. 6 à 15 ans.
Donc et 6 à 15, c'est le rythme scolaire.
Exactement,
en fait.
Ouais. Mmh. Ça s'inscrit sur le rythme scolaire. Et puis là, du coup, il y a une volonté, et je pense aussi une nécessité d'ouvrir. Et puis, on est en train de mener une petite enquête sur l'arrondissement du Jura pour voir quelles sont les forces professionnelles, pastorales ou catéchétiques en présence pour le projet catéchétique actuellement. Et ce projet, il est vraiment en mouvement. Hein. Et puis, on se rend compte que actuellement, il y a beaucoup d'engagement professionnel auprès de la jeunesse, des ados. Mmh. Et on a vraiment, entre guillemets, négligé, parce qu'il y a quand même des forces en présence pour l'enfance et la famille, mais c'est minime par rapport à ce qu'il y a auprès de la jeunesse. Et je pense qu'on est en train de vivre un peu un bouleversement à ce niveau-là. En tout cas, ces chiffres nous interpellent. Et l'opportunité de ces nouvelles lignes directrices, c'est de dire, ah, bah, il faut, si on veut des jeunes adultes et des paroissiens dans nos églises, il faut peut-être mettre aussi un accent et des ressources pour s'occuper du pôle enfance, famille, et développer déjà là des réflexes communautaires, des réflexes d'esprit critique, de dialogue. Voilà, c'est pas juste à 13 ans qu'on initie ou qu'on a l'opportunité d'initier ça, mais on pourrait déjà ouvrir et initier les enfants.
Les enfants, leurs parents aussi,
oui,
du coup.
Ouais. Oui. Après, avec ces nouvelles lignes directrices et les réalités de chaque paroisse hein, dans l'arrondissement, chaque projet aura sa spécificité par rapport aux ressources de la paroisse, au terrain paroissial, au charisme des personnes qui portent le projet. Voilà, c'est vraiment l'idée de ces lignes directrices, c'est de permettre un projet qui colle au terrain et puis pas de venir par en haut dire ça doit être comme ça.
Parce que ce qu'on a avant, du coup, c'est parce que voilà, ça se démarque d'un ancien système et c'est donc, tu me diras si ça correspond, mais de ce que j'en comprends, c'est on a un système donc calqué sur le système scolaire, avec quoi du contenu à chaque tranche d'âge son contenu, ou chaque période d'âge son contenu, et le catéchisme consiste à travailler ce contenu avec les catéchumènes, et puis à la fin, c'est la confirmation.
Exactement, oui. Voilà. À 15 ans, à la fin de la scolarité.
C'est ça, qui accomplit la phase de formation de base, on va dire. Et tout ce qui vient après, c'est du bonus. Je ne sais pas comment c'était traité, mais enfin, ça, c'est plus dans le champ de vision. Donc ça n'existe plus. Il n'y a plus d'offres de formation par tranche d'âge.
Alors, le truc, c'est que nos effectifs de catéchumènes se réduisent aussi.
Oui.
Et puis, où les anciennes lignes directrices nous disaient de travailler par cycle ou par tranche d'âge, bien aujourd'hui, c'est plus possible parce qu'on a certaines paroisses ou régions qui ont peut-être 5 catéchumènes pour cette tranche d'âge. Mmh. Et on a plutôt une dynamique de groupe pour notre catéchèse. Et
je crois que la volonté... différence d'âge dans les groupes, j'imagine.
Alors maintenant, la tendance, c'est justement de regrouper les tranches d'âge pour pouvoir travailler avec le groupe et pas avec des petits effectifs. Donc du coup, effectivement, je pense que le tableau de la catéchèse, il va quand même bien changer. Il s'est avéré quand même pertinent de proposer un parcours qui corresponde aux années scolaires, parce qu'on aurait pu dire, on fait de la catéchèse au-delà de... Enfin, je veux dire, n'importe qui s'intéresse à la question peut entrer dans le projet catéchétique à n'importe quel âge, à n'importe quel moment, tu viens quand tu veux, mais on trouve quand même pertinent de garder le lien avec le rythme scolaire.
Voilà.
Donc je pense que ce qui va rester, c'est d'inviter les enfants dès la première année d'école, ça fait la 3H chez nous en termes de système scolaire, donc à 6 ans, de les inviter dans un programme, mais qui sera un programme plus forcément appelé catéchisme, mais qui sera un programme, une offre ecclésiale
Ok, des activités.
Des activités, ouais, en lien avec l'Église, bien sûr, toujours. Et puis, dans cette offre ecclésiale, qui sera donc vraiment large, bah, il y aura tantôt des activités possibles pour les enfants seuls, pour les enfants et leurs familles, pour les ados, les pré-ados, des activités transversales. Enfin voilà, il n'est pas encore peint ce tableau. Et il sera surtout spécifique à chaque région ou à chaque paroisse. Mais ouais, j'imagine que ça va ressembler à...
Avec quand même quelque chose comme une confirmation à la
oui.
fin.
Donc dans
enfin,
cette
à la fin,
ouais.
À un moment donné, disons.
Alors oui, le souhait, vraiment, parce qu'il y a eu tout un chantier qui a été ouvert pour repenser cette catéchèse, et le souhait des personnes acteurs, actrices de la catéchèse, c'est vraiment de garder le rite de la confirmation.
D'accord, ouais.
Et puis à 15 ans, qui correspond à la fin de la scolarité, c'est cohérent, c'est aussi des grands changements pour le jeune. Et puis du coup, ouais, il y aura dans cette offre ecclésiale jeunesse, qui est globale, 0-25, il y aura un parcours de confirmation. Mais ça aussi, c'est chaque paroisse ou région qui doit définir quel sera son parcours, l'offre spécifique pour la préparation à la confirmation ou au baptême.
Ouais, est-ce que c'est une année avec des sessions ?
Oui.
Est-ce que c'est un camp ? Est-ce que...
Ouais.
Ok. Ok, je trouve ça assez fou de dire autant de marge de manœuvre. Alors en même temps, un grand bac à sable, du coup, et puis effectivement une possibilité de s'ajuster. Très proche des réalités locales, parce que je pense que c'est pas la même chose que d'organiser quelque chose comme ça dans une ville ou dans des villages, dans une zone plus rurale ou de montagne. Mais j'entends que c'est encore en train de se faire, donc je suis curieux de voir que ces prochaines années, il y a quelque chose à suivre dans l'évolution. Sur le plan du contenu, j'imagine... Bon, traditionnellement, en catéchèse, on imagine transmission de la foi, apprendre contenu religieux. Bon, c'était l'école biblique à l'époque, il fallait apprendre les histoires de la Bible. J'ai encore eu ça, moi, à l'école, en l'occurrence, des cours de culture biblique, ou je sais plus quel était le terme, mais enfin, on avait en tout cas des éléments de Bible à l'école. C'était pas justement pas dans le cadre du catéchisme, c'était le cas à l'école où des fois c'était un pasteur qui venait. Et je ne crois pas que ça n'existe plus maintenant. Du moins, ça a changé de statut. Mais tu as d'emblée insisté sur cette question du choix, sur quelque chose qui ouvre par rapport au contenu strictement religieux. Tu mets beaucoup en avant les enjeux liés au dialogue, à la capacité du jeune à se positionner. C'est quoi qui... le but, la fonction? Comment est-ce qu'on... on définit cette catéchèse, sa visée, son but, son lien à la tradition chrétienne dans le cadre de Jura Bernois, sachant que là, je sais aussi qu'il y a des choses qui ont bougé de ce côté-là.
On a un vrai enjeu aujourd'hui, vraiment, de vivre une église en 2026, enfin, voilà, de s'adapter, et puis je ne pense pas que cette adaptation nous éloigne, ou doive nous éloigner du fondement biblique de notre catéchèse. On a, et ça depuis quand même plusieurs années, dans notre manière de faire de la catéchèse, on dit qu'on fait, surtout avec les adolescents, une catéchèse plutôt existentielle. Et puis c'est dans ce sens-là que je pense qu'il faut continuer dans ce trend-là, dans le sens qu'on va plutôt mettre le jeune, mais même l'enfant, parce que ben voilà, les temps changent aussi, puis les enfants ont aussi déjà des questions... existentielles, et des réponses aussi à donner à ces questions existentielles. Et l'idée, c'est de plutôt mettre le jeûne, mais ça se faisait déjà avant, mais c'est de garder ce principe, de mettre le jeûne au centre de notre questionnement, et puis d'avoir un récit biblique qui vient éclairer nos situations de vie quotidiennes, et qui a un éclairage spécifique à la personne qui le lit. Et je trouve que... Alors, je suis assez convaincue que notre catéchèse va changer, parce qu'on doit s'adapter. Mais ce qui va changer, je pense, c'est plutôt le rythme, c'est plutôt le style d'offre. Est-ce qu'on est dans l'événementiel ? Est-ce qu'on est dans la régularité ? Est-ce qu'on est dans des activités, justement, je dis ghettoisées, justement plus ghettoisées, plus plus en silo, parce qu'on a quand même longtemps vécu une catéchèse où ben, par âge, et puis les jeunes font ceci, mais ils ne sont pas en lien avec la paroisse, avec les autres groupes.
Oui, d'accord.
Ouais. Je pense que c'est des choses comme ça qui vont bouger maintenant avec ces nouvelles lignes directrices. Mais le fait qu'on fasse une catéchèse où le jeune, où l'enfant est au centre de nos préoccupations, c'est ses questions à lui ou à elle qu'on prendra en considération. Mmh. Et on reste sur une catéchèse avec un fondement biblique. Je pense que ça va vraiment rester. Et encore plus aujourd'hui, moi j'ai vraiment l'impression que même si le jeune, il ne va pas nous dire « Ah, j'ai besoin de lire la Bible » ou « Ça m'intéresse », c'est pas ça qui le met en mouvement en premier, mais que c'est justement pas inintéressant pour les jeunes de tout d'un coup se rendre compte qu'il y a un récit qui date de plusieurs milliers d'années, qui résonne encore aujourd'hui, et qui est peut-être un récit qui peut nous soutenir dans des moments difficiles, qui peut nous ressourcer ou comme ça. Et je pense qu'on doit continuer vraiment de mêler l'air du temps, mais de garder ce fondement biblique. Et j'ai pas l'impression que ça va changer. Et ça me réjouit.
Ça reste sur cette ligne, quelque chose que tu as reçu aussi, j'imagine. Enfin, c'est comme ça que tu as vécu ton propre catéchisme.
Oui. Ouais. Oui.
Il y a un certain temps.
Oui, jadis. J'ai envie de dire.
Ça me fait me dire qu'il serait intéressant que tu nous guides un peu au travers du... Si tu devais proposer une animation aujourd'hui, en cursus ou hors cursus, ça, on s'en fiche, mais si un temps justement comme ça où on explore ces questions et où éventuellement on met les questions du jeune et le récit biblique et j'imagine la foi qui vient entre le milieu de tout ça, à quoi ça ressemblerait une animation qui permettrait de vivre ça, ou une que tu organiserais?
Alors là, je viens sur une expérience vécue dernièrement. On avait un groupe de catéchumènes, une vingtaine de jeunes de 13 ans, un peu musclés comme ça. On est une équipe exclusivement féminine dans l'équipe catéchétique, avec une pasteur et puis une autre collègue catéchète, et puis des petits gars un peu rebelles. Et puis, rebelles, mais sympas, mais moi j'aime bien quand c'est...
Ça résiste un peu.
Ça résiste et ils se bastonnent un petit peu de temps en temps. Et on s'est dit, mais il faudrait qu'on parle de la thématique de la violence.
Mm-hmm.
Et puis...
En regardant justement aussi comment ils interagissent, j'imagine.
Oui. Mm. Et du coup, on a des rencontres de caté qui durent 3 heures et demie, avec un repas. On fait ça le mercredi, juste après l'école. Et puis, on a fait venir un gars qui fait des arts martiaux, qui fait du karaté. Mmh. Et avec vraiment, alors on l'a briefé, cet intervenant, en disant que nous, ce qu'on voulait aborder, c'est la thématique de la non-violence. Donc c'est quand même intéressant de faire une session de karaté. Donc il nous a initiés aux gestes d'autodéfense. On a parlé aussi plus largement de comment est-ce qu'on se défend, comment est-ce qu'on prend soin de son intégrité. Donc pas juste avec de la défense physique, mais aussi d'autres postures. Et puis donc on a fait ça, et après donc les jeunes ont vécu quelque chose, ils ont pu se mettre, ils ont tous des expériences.
Ouais,
je suis convaincue
sûr,
aussi de ça sur le terrain scolaire, dans leurs activités associatives où ils vivent des tensions, où il y a peut-être du harcèlement, peut-être de la violence verbale. Donc, ils ont leurs expériences, on vit une expérience, et puis après, on prend juste un temps pour découvrir un récit biblique et voir qui vient éclairer en fait une situation de violence et qui vient peut-être nous donner une piste qu'on prend ou qu'on prend pas sur un dénouement possible. Et là, on avait pris le récit de la femme adultère avec Jésus et son grand calme, qui prend le temps de réfléchir et qui renvoie en fait aux entre guillemets persécuteurs la question de la violence
et puis de leur propre contribution, violence, injustice, un peu des choses qui se mélangent, transgression des normes, et c'est vrai de pas monter là, ils montent pas dans l'escalade quoi, dans la réponse qu'ils donnent.
Voilà, et puis tout le disons, l'enjeu et la délicatesse, et on n'y arrive pas toujours parce qu'on est tout à fait des êtres humains, et puis qu'on a toujours envie de transmettre quelque chose aux jeunes, et puis de leur donner un mot de la fin, si je peux dire. Mm-hmm. Mais tout l'enjeu et la posture qu'on essaye d'avoir un maximum, c'est de ne pas donner de réponse. C'est juste de laisser les choses aller comme ça, et de montrer, d'apporter cet éclairage biblique, d'en discuter, mais pas de finir pas la rencontre en disant ouais. C'est comme ça qu'il faut faire.
C'est pas forcer la conclusion.
Voilà.
J'imagine, je ne force pas. Enfin, un texte biblique m'offre des possibilités ou des manières de me resituer dans mon existence face mm-hmm. à une situation, face à un problème. Et en même temps, je suis toujours renvoyé à qui je suis, à ma liberté dans.
Oui.
Ce que je peux ensuite en faire, ou ce que je peux faire maintenant concrètement, là où je suis dans mon histoire qui rentre en résonance avec celle du texte biblique, mais qui en même temps est autre, j'imagine. Enfin, je suis ailleurs dans un autre temps.
Et puis, si on a 20 catéchumènes, il y a peut-être 20 pistes
c'est ça, ouais.
possibles.
Et ça, t'arrives à les faire parler entre eux, enfin, parce que, bon, à nouveau, les capacités de dialogue sont pas les mêmes, enfin, les enjeux du dialogue sont pas les mêmes en fonction de l'âge, pour le coup. Mm-hmm. L'adolescence, d'un coup, ça devient plus difficile, ça doit se réapprendre presque.
Je pense qu'une des forces du projet dans lequel on est actuellement de cette catéchèse, c'est le groupe. Mm-hmm. Et c'est qu'on a un groupe qui se constitue depuis la 3H, donc depuis que les enfants ont 6 ans, mmh. sauf erreur, enfin voilà, mais en tout cas depuis leur jeune âge, et c'est souvent un groupe qui est constitué, les jeunes se revoient régulièrement, et puis en fait, la dimension de confiance dans ces groupes permet aussi le dialogue, et de donner un espace à leur réponse, à leur avis, mais c'est quelque chose qui se construit.
Du coup, je reviens un peu sur l'élément de structure. Donc, il y a effectivement ce point de départ. Donc, j'avais pas compris que le groupe, c'était pour toi, tu le lis quand même à cette génération. En gros, une génération qui se rencontre à un moment donné et qui se constitue. Est-ce que des gens peuvent débarquer au milieu ?
Oui, ça arrive.
Donc, voilà, le groupe est flexible dans
oui,
ça.
Oui. On a chaque année des jeunes qui, tout d'un coup, qui disent « Ah bah tiens, je vais... »
J'aimerais voir. Ouais.
J'aimerais voir. Ou des jeunes qui pouvaient pas venir avant parce qu'il y a des activités. Des fois, les horaires ne conviennent pas. Et puis, oui, mais c'est minime. Voilà, il y a aussi des jeunes qui quittent le navire en cours de route. Et ouais, ça fluctue, mais le noyau, il reste...
Il y a un noyau constitué qui permet, au fond, aussi une dynamique un peu stable sur le long terme. Par rapport à cette question, justement, du noyau du groupe, dans la discussion qu'on a eue en amont de cet épisode, on a évoqué... quand même l'enjeu finalement de cette église réformée qui est une église pour toutes et toutes, ça c'est un slogan qui est assez commun à toutes nos églises réformées en Suisse, et néanmoins la difficulté qu'on constate, dans nos offres souvent on touche une partie restreinte de la population locale, quelque chose que tu vois aussi dans la catéchèse, comment tu perçois ça?
Oui, je pense qu'il y a plusieurs éléments à ces difficultés-là, mais je pense qu'il y a quand même, c'est paradoxal, une espèce de désintérêt pour les questions d'église, religieuse, spiritualité, dans les familles. Là où moi, à l'époque, j'ai été obligée par mes parents à suivre le programme catéchétique, aujourd'hui peut-être qu'on n'oblige plus, que les enfants, on leur laisse le choix. Ça fait que s'ils ont le choix, ils vont plutôt peut-être choisir le foot ou la danse que le programme caté. Ça, c'est une première chose. On a aussi des difficultés parce que un temps, les fichiers paroissiaux étaient mis à jour grâce aux fichiers communaux. Et il y avait de la transmission d'informations sur... il y a toujours cette transmission, mais sauf erreur, dans les communes, ils n'ont plus l'exigence de demander la confession, par exemple. Du coup, si la petite croix ne vient pas...
Des choses qui se perdent quand même.
Ouais, voilà.
Et des possibilités de contact aussi. Quoi.
Ouais. Donc ça, c'est vraiment purement administratif, mais on en paye aussi les conséquences aujourd'hui dans les paroisses.
Ouais, une perte de lien avec une population plus générale.
Et puis après, pour nous... je pense pour l'Église aujourd'hui, tout l'enjeu, c'est de... Alors, je pense qu'on a des offres qui sont de qualité pour les paroissiens et paroissiennes, et donc du coup aussi la jeunesse et l'enfance. Mais la question qu'on doit vraiment se poser, c'est comment est-ce qu'on va au-delà de ça, parce que les paroissiens et paroissiennes, c'est, je pense, une petite minorité des contributeurs de l'impôt, si on peut dire comme ça. En tout cas, dans le canton de Berne, ben, c'est encore un impôt ecclésiastique. Et comment est-ce qu'une église comme réformée, mais finalement pour tous les cantons, comment, qui se veut être à disposition, disponible pour tout le monde, qui se veut être multitudiniste, et ben comment est-ce qu'elle s'approche des personnes qui sont un peu distancées. Et je pense que ça, c'est une vraie question aujourd'hui. Et moi, j'entends beaucoup de collègues, ou beaucoup, plusieurs collègues qui m'ont interpellée sur ça. Quelles compétences on peut développer, quels moyens on peut disposer pour justement, pas juste faire... Donc, il faut garder ce travail auprès des gens qui sont proches de nous, mais comment est-ce qu'on... Est-ce qu'on va au-delà de cette frontière-là? Je trouve que c'est vraiment intéressant. Et enfin voilà, je pense que ça demande aussi à l'Église réformée de se positionner pas en termes d'idéologie ou de politique aussi, mais de se positionner dans l'espace public. Et...
Tu vois des pistes ou c'est encore un peu trop tôt pour dire?
Oh là là. Oui, bon, après c'est des pistes, hein, c'est pas une recette toute prête, parce que la recette elle est en lien avec le terrain.
Peut-être des chemins défrichés en tout cas.
Mais je pense qu'on gagne à, ça s'est eu fait aussi, de faire des synergies avec d'autres associations, d'autres voilà, groupements qui vivent aussi dans la commune. Une année on avait fait une balade, genre balade gourmande. Mais on avait fait avec des soupes, on avait appelé ça les soupes d'ici et d'ailleurs, et c'était dans la ville de Moutier, on s'était approché des magasins du monde, des associations qui ont un lien avec un engagement international, et puis donc magasins du monde, il y avait plusieurs groupements dans la ville, et puis ça avait vraiment donné un rayonnement assez surprenant.
Et puis ça met les jeunes en lien, enfin du coup c'était avec
alors il y avait un aspect jeunesse, je me souviens j'avais travaillé avec les écoles aussi, les secondaires 2, centre de formation, on avait fait toute la publicité avec eux, puis ouais ça offrait à l'église l'opportunité de travailler plus largement avec d'autres partenaires. Mais c'est toujours, qu'est-ce qu'on affiche à ce moment-là
Soi-même comme organisation ou comme valeur, comme
Comment est-ce qu'on se présente
avec quel étendard est-ce que
Et comment est-ce qu'on assume aussi d'être église aujourd'hui avec toutes les questions
C'est un peu provocateur, hein, l'image de l'étendard justement. Peut-être qu'on vient pas avec un étendard parce que c'est quand même un peu, je sais pas, des images de croisade qui me viennent à l'esprit quand je parle d'étendard, c'est peut-être justement pas ça qu'on amène.
Et puis dans le canton de Berne, on a aucune porte d'entrée dans les écoles et dans les écoles primaires, secondaires et secondaires 2. Donc, on peut. C'est vraiment compliqué parce qu'il y a cette question de.
Bon, laïcité de l'école, j'imagine c'est comme ça aussi que c'est structuré.
Voilà. Je pense qu'une manière de s'ouvrir, c'est de profiter aussi. Profiter. De faire des synergies avec d'autres structures que travailler en vase clos. On a beaucoup fait des collaborations interparoissiales et je pense qu'on doit encore s'ouvrir un peu plus.
Et puis je pense qu'il y a un enjeu aussi au niveau du croisement des milieux sociaux. Alors ça dépend un peu de région en région, peut-être qu'il y a certains lieux qui sont plus homogènes que d'autres, mais c'est vrai que moi je suis plutôt basé sur la côte, sur le lac Léman, donc entre Genève et Lausanne, où en fait on a une population qui est assez internationale aussi, là-bas. Qui en partie ne vont pas à l'école publique mais vont dans du privé plutôt. Et c'est toute la question, si je regarde la population de ces villages, effectivement, qui habitent dans un même espace, qui au bout du compte, si en tout cas pour la population suisse, vont participer à la formation de la vie collective à un moment donné aussi, de ces lieux. Et je pense que c'est un vrai défi aujourd'hui de voir quels sont les espaces où on apprend en fait la cohabitation entre des milieux qui des fois ne parlent même pas la même langue. Et justement là, On va peut-être penser à des réalités de la migration, ça peut être un volet, mais il y a plusieurs volets du défi de la cohabitation. Et puis, sinon, je pense à ça parce que c'est vrai que le milieu réformé me donne l'impression de toucher quand même un certain groupe quand même dans la population qui ne correspond pas à tout le monde. On n'a même plus forcément une très grande diversité sociale dans les familles, les personnes qui ont un lien avec la tradition réformée et qui veulent le garder. Et puis, je vois plein d'opportunités. Certains voient là un déclin là-dedans, dans le statut de ah, ben, avant tout le monde nous connaissait, tout le monde connaissait le pasteur, tout le monde avait au moins eu une fois affaire à lui. Et puis là maintenant, non, on est plus face au défi de se dire, mais il y a plein de gens qui ne se connaissent pas, mais qui ne se connaissent pas non plus entre eux.
Oui.
Et je me dis, ouais, il y a, au travers notamment d'une activité qui est. C'est joli de prendre ça par le biais de la jeunesse et de l'enfance, parce qu'on suppose qu'on est. On va dire, ça paraît évident qu'on est dans un apprentissage, mais en fait, tout le monde a gagné à apprendre de ces espaces de rencontre. Donc voilà, je me dis que là aussi, il doit y avoir sans doute des opportunités, des interfaces possibles. Mais ça décale pas mal quand même, par rapport à l'idée peut-être d'une catéchèse qui est là pour faire de bons chrétiens.
Ah, complètement.
Pour le dire un peu frontalement.
Je pense qu'on doit vraiment faire le deuil de l'offre catéchétique qui va offrir à la paroisse des bénévoles pour des tables, des conseillers de paroisse et tout ça. Ça marche encore? Mais c'est pas, ça doit pas être l'enjeu principal. Je trouve vraiment que la mission principale de l'Église, c'est de transmettre quand même et de vivre concrètement et de donner la possibilité de vivre concrètement des activités à travers, en découvrant aussi qui sont empreintes des valeurs chrétiennes, des valeurs de l'Évangile. Et puis, mais bon, c'est parce que c'est mon dada aujourd'hui, mais je suis vraiment convaincue qu'une église qui peut entrer en dialogue avec, avec le monde aujourd'hui et avec l'individu spécifiquement, enfant, jeune adulte, adulte, personne âgée, personne migrante, vraiment, si on arrive à ça, on est. Pour moi, c'est ma vision de l'église, ce serait excellent.
On est dans la cible.
On est dans la cible,
ouais. On est dans la cible.
Ouais. Et si j'ose réagir encore à ce que tu as dit avant, effectivement, ce qu'il y a de riche, en tout cas, et moi, ce qui me procure beaucoup de motivation et d'énergie pour être, après 20 ans, encore animée par la catéchèse, c'est qu'effectivement, on vit des choses, et c'est ce qu'on vit avec le groupe, peu importe l'âge, on essaye d'apporter quelque chose à notre public, mais on s'apporte aussi quelque chose à soi-même. Et je suis convaincue que si on questionne les collègues pasteurs, catéchètes, les bénévoles, ils ont tous un témoignage qui dit « Ah ben oui, moi ça m'a fait évoluer, j'ai appris ceci, j'ai bougé cela dans mon existence. » Et en cela, on dit dans notre région, mais je pense que ça se dit ailleurs, que la catéchèse, c'est un peu un laboratoire de recherche, et puis chacun vient avec son expérience, ses formations aussi, bien sûr. Le théologien a une autre expertise que l'enfant ou que le catéchète, mais chacun est là pour être en recherche et bouger un peu des curseurs en soi.
Une question qui me vient à l'esprit en t'entendant sur ce mouvement de recherche qui est encouragé, cette ouverture, ce laboratoire, quelle place prennent des éléments? Est-ce qu'il y a encore une place pour des éléments plus typiquement religieux? On dira, j'en sais rien, moi, participation au culte, prière, lecture personnelle de la Bible, j'en sais rien, ça dépend ce qu'on met un peu là derrière, mais ces éléments qui appartiendraient plus spécifiquement à quelque chose qui relève d'une foi vécue, d'une participation à une culture religieuse, une culture chrétienne plus ample, pas forcément plus traditionnelle, c'est pas forcément ça que je veux dire, mais où on s'implique un peu au-delà de simplement la dimension réflexive et du dialogue.
Je pense que le projet catéchétique, il ressemble à ce laboratoire, Mais il y a aussi un apprentissage de la vie communautaire, parce que la catéchèse, enfin, le groupe de catéchumènes, c'est une communauté, dans une communauté qu'est l'Église. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, en tout cas, c'est la réalité dans, dans les paroisses de l'arrondissement du Jura, c'est qu'on a de plus en plus de regroupements de paroisses, mais c'est aussi la vérité dans les RV.
De Cortonbeau, tout à fait aussi.
Et du coup, ça devient effectivement plus difficile de relier le groupe de catéchumènes ou le catéchumène à sa paroisse, puisqu'on fait du travail interparoissial. Et voilà, donc peut-être que le lien à sa propre paroisse, à sa propre communauté villageoise, celui-là, il est un peu distendu. Il n'empêche que la dimension du culte ou de la prière, on la vit aussi, on les vit aussi dans nos programmes cathés, puisqu'on a des cultes qui jalonnent le parcours, en fait. Mais ce sera des cultes qui seront des cultes régionaux et puis plus forcément en lien avec sa communauté paroissiale. La dimension de la prière, elle est aussi transversale. Et après, ça dépend aussi de chaque acteur.
Oui, puis de la sensibilité du catéchète, du ministre, de ce qui va, ce qu'il ou elle va amener avec sa propre couleur, quoi, aussi, j'imagine. Et du coup, aussi l'ouverture qui peut être générée à partir de là sur d'autres manières de faire, j'imagine. C'est encore une question un peu de forme, mais moi, je sais que dans mon propre vécu, la dimension des camps était très importante. Des camps qui venaient toujours à des moments très précis, donc il y avait un rythme qui était clair pour tout le monde, etc. Là, dans quelque chose qui s'ouvre, est-ce qu'on arrive à garder ça, ou est-ce que ça doit se retrouver sa place?
Alors actuellement, c'est...
Vu que tu parlais de vie communautaire, d'ailleurs aussi, c'est des moments où on le vit de manière un peu intense, un camp, quoi.
D'une manière générale, je reviens avec l'arrondissement du Jura, le programme est encore rythmé par les camps, et puis essentiellement, enfin, il y a même des paroisses qui ont des camps avec les enfants, il y a des paroisses qui ont des week-ends avec les préadolescents. Donc il y a dans chaque cycle actuellement une offre de camps. Il y a le camp de confirmation, préparation à la confirmation. J'ai des collègues qui sont partis ce matin parce qu'ils font ça sur le week-end de l'Ascension.
Pour Pentecôte, du coup.
Oui. Donc c'est une donnée qui est encore actuelle, qui à mon sens va rester, parce que c'est quelque chose qui plaît aux jeunes. Moi, quand je retrouve des jeunes que j'ai rencontrés il y a une quinzaine d'années, au début de mon ministère, souvent ce qui leur revient à l'esprit, c'est le camp. Ils nous rappellent souvent des souvenirs de camp c'est vraiment quelque chose de marquant.
Des moments d'expérience un peu plus intenses qui nous sortent aussi du quotidien. C'est spécial le camp parce qu'on sort à la fois, c'est pas l'école, c'est pas la famille, c'est le groupe se renégocie un tout petit peu. On peut aussi expérimenter d'autres manières d'être dans un groupe ou dans un système un peu serré comme ça lors d'un camp. Donc c'est vrai que ça marque du coup parce que je vois pas très bien où on peut vivre ça. Enfin, maintenant, je ne dis pas ailleurs que dans l'église, mais que dans la structure camp, quoi, cette possibilité de sortir tout d'un coup et de jouer sa vie un peu différemment. Quoi.
Ouais. Nous, on a chaque année des jeunes de 15 ans qui... Alors, Jura-Bernois, c'est quand même encore des régions de campagne, mais on a chaque année des jeunes qui partent en camp, ils font des camps vers Anduze, dans le sud de la France, et ils vont faire une demi-journée à la mer. Il y a des jeunes pour qui c'est la première fois qu'ils découvrent la mer. Enfin, je trouve, et c'est des jeunes suisses, donc c'est pas. Et enfin voilà, ça c'est la partie touristique, mais c'est un tout, quoi.
Ça fait partie de la nouveauté de l'expérience, Nouveauté spéciale de ce qu'on vit à ce moment-là.
Et ce que je pourrais dire aussi par rapport à ça, c'est on a une formation pour les catéchètes professionnels qui induit quand même cette empreinte-là dans la catéchèse après sur le terrain. Et je trouve que la formation fait beaucoup. Moi, la formation que j'ai eue, c'est une formation qui était liée à la catéchèse qu'on voulait pour l'arrondissement du Jura. Et je trouve que ça, c'est un gage peut-être d'homogénéité pour notre région. Parce qu'aujourd'hui, on a ces nouvelles lignes directrices qui vont plutôt proposer une catéchèse qui correspond à chaque terrain paroissial.
Donc assouplir là où il y avait un programme commun.
Mais à travers la formation qu'on donne, eh ben on peut garder vraiment, j'espère en tout cas qu'on pourra garder une empreinte un peu commune par le biais des professionnels.
Parce que ça, c'est clair que ça me paraît être un défi, hein, comment se reconnaître encore après au travers des différentes paroisses et de leurs offres respectives.
Ouais. C'est une volonté qui est ressortie des professionnels actuellement en poste, pasteurs et catéchètes, de dire « Ah, mais si on change les lignes directrices et que ça s'assouplit, ce sera quoi l'empreinte régionale, enfin d'arrondissement ?» Et puis, ben, c'est plutôt enrichissant et réjouissant de se dire « Ah bah tiens, on se questionne quand même sur ça. » Mais c'est vraiment, effectivement, on est un peu dans des grands écarts entre la nécessité d'avoir quelque chose qui correspond aux ressources et au terrain paroissial ou régional, et puis de garder une identité commune à un certain niveau.
Ouais.
Moi, je vois ça un peu comme des feuilles, les feuilles transparentes, là. Je perds mes mots. Qu'on peut superposer, puis on voit quand même toujours
comment ça s'appelle, mais je vois. Ouais.
Papier calque. Quelque chose comme ça.
Oui.
Tu vois, on peut vraiment en superposer. Et puis, on garde quand même... Enfin, l'image se complète. Et j'espère que ça ressemblera à ça. En tout cas, on y travaille fortement.
Et est-ce qu'au milieu de tout ça, vous avez des groupes de jeunes?
Oui, alors...
Parce que ça, c'est aussi un élément qui joue un rôle assez important.
C'est ça qui est intéressant aussi avec l'avènement de ces nouvelles lignes directrices, c'est qu'en fait, dans chaque paroisse, il y a déjà depuis de longues années un projet post-caté, comme on appelle, groupe de jeunes, animation jeunesse. Et oui, ça c'est quelque chose qui vit quasiment, mais assurément dans chaque paroisse ou dans chaque région, et surtout à travers l'offre de formation, donc le jeune, quand il a fait sa confirmation, ou qu'il n'a pas confirmé, parce qu'il a fait son choix, il est invité à poursuivre, en fait. Et donc il y a une partie animation jeunesse avec des activités jeunesse, qui sont des fois des offres de loisirs, mais qui peuvent aussi être l'animation d'un culte dans une paroisse ou l'autre. Et voilà, ça c'est une des possibles. Et puis il a aussi la possibilité de suivre la formation d'accompagnant ou de moniteur caté, les termes diffèrent selon les régions, pour pouvoir après accompagner les camps. Et ça fait que dans nos camps, que ce soit chez les petits, chez les pré-ados ou chez les ados, on a des jeunes adultes qui viennent comme bénévoles, qui ont eu une petite formation pour accompagner.
Ouais. Et ça, c'est du coup des partenaires que vous avez en vue aussi quand vous pensez ensemble à catéchèse, de 0 à 25?
Alors actuellement, enfin oui, ils sont dans le champ de vision.
Ouais.
Pour l'instant, il y a eu beaucoup de discussions, mais ça date encore que de quelques mois, cette nécessité.
Ouais.
On n'a même pas encore communiqué officiellement sur les outils qu'on aura pour mettre en place ces concepts de caté. Mais oui, bien sûr, ils sont à prendre en compte, et c'est même enrichissant de travailler avec eux parce qu'ils ont cette proximité avec le public. Et je pense qu'ils peuvent être... des révélateurs d'enjeux importants qu'il faut qu'on prenne en compte.
Sur base de l'échange que nous avons eu, sur base des réflexions que tu es en train de me dire, est-ce que tu identifies un enjeu qu'il faudrait garder et mettre particulièrement en avant?
Un seul, vraiment.
Il faut faire des choix.
Attends, je vais faire un long
dans
mot.
Dans un monde limité, il faut faire des choix.
Moi, je pense qu'un enjeu essentiel pour nos églises, c'est l'enjeu de la présence, et puis plus que ça, de la relation. Et puis voilà, cette notion d'être en lien, et avec tout ce que ça comporte, puisque j'ose pas dire plus de mots que ça. Mais enfin voilà, l'idée d'être en relation, d'accueillir ce qui se passe chez le jeune, ce qui se passe dans l'actualité. Et puis, pas donner des réponses toutes faites, mais de laisser résonner et d'entraîner au dialogue. Voilà ce que j'aimerais dire.
Le christianisme ne se transmet plus automatiquement. et les églises doivent du coup prendre en charge ces transmissions. L'arrondissement Jura de l'église Béjusseau a fait son choix. Premièrement, valoriser la liberté des personnes, leurs questions, leur chemin existentiel. Deuxièmement, laisser les coups des franges au génie local pour donner forme à cet apprentissage du choix de la liberté. L'option d'étendre la perspective aux 0 à 25 ans me parle. Plutôt que de catégoriser les personnes par silos d'âge, cela invite à penser à un mouvement plus global, donc des occasions de contact, des rencontres entre générations. Famille, enfants, adolescents, jeunes adultes, des réalités qui se croisent, qui se frottent, mais qui peuvent se rejoindre dans un même espace d'apprentissage avec l'éclairage de l'Évangile. Peut-être que l'épisode vous a interpellé sur un point ou l'autre, ou qu'il vous donne envie de partager vos propres expériences et réflexions. N'hésitez pas à le faire en commentaire sur nos différentes plateformes ou à me contacter directement par mail à l'adresse helio.jaillet@evref.ch. Et si cet épisode vous a intéressé, abonnez-vous à nos canaux de diffusion, que ce soit sur Spotify, Apple Podcasts ou à notre lettre de nouvelles sur le site eks-eers.ch. Moi, je vous donne rendez-vous au prochain épisode. D'ici là, portez-vous bien. Ciao.